Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, on ne sait jamais quoi offrir à nos ados. Mais cette année, on a trouvé le cadeau idéal. 2 heures dans leur forfait. Et vu le prix, c'est aussi un cadeau pour nous. Alors, c'est qui les parents trop géniaux?
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du forfait starter 2 heures à 0€ par mois pour les clients box pendant un an, puis 5€ par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
Le Super Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Une heure d'after avec Ali Benarbia, avec François Malardeau. Ça parle cuisine. Ça parle cuisine pendant la pub.
De quoi?
Régime.
Oh, demi-tour. Et moi, je vais te dire,
après, tu vas manger un tagine encore.
La cuisine de Nicolas Villas, c'est la cuisine portugaise. C'est pas lui qui l'a écrit. C'est sa femme.
Tiens, et tout à l'heure, je vais vous parler de cuisine. Réaction de Psycho31 sur le hashtag RMC Live. Nico, fais du lobbyisme pour le pâté de sardines, s'il te plaît. J'en trouve pas en France. Il y a que des rillettes dégueulasses. Bah écoute, je te le dis. Alors, faut pas citer de marque. Mais voilà, il y a une supermarché, c'est un truc portugais, au pâté de sardines.
Dis-lui, j'ai un billet d'avion pour Lisbonne.
Sardines. En fait, les supermarchés en vente, tu sais, t'as le rayon produits étrangers là. Bah, tu vas dans le rayon Portugal et il y a du pâté de sardines. Moi, j'en
ça sent le fond de culotte, non, ça?
Ah non, c'est super bon.
Non,
les mettre ça à l'apéro dans le restaurant portugais.
Ça peut sentir un peu, mais ça peut être bon.
Ah, mais ouais, puis t'as du pâté de thon, tout ça.
Les meilleures sardines grillées, c'est à la pêcherie d'Oran. Vas-y, continue.
Mytho.
En Algérie.
N'importe quoi. Ah, tu as des allées et tout ça. T'as des trucs de fous furieux. Je vous rappelle les résultats de la 17e journée de Ligue 1. Il est fou, l'auteur. Oh, il est taré. 3-1, le victoire du PSG face à Lille. On y reviendra quelques minutes. N'importe quoi. Un partout entre Angers et Montpellier. N'importe quoi. 4-0 pour Guingamp face à Dijon. Mec, il est ouf, quoi. Genre, à Rouen. 2-0 pour Toulouse face à Caen. Alors que tu vas à Nazaré, il y en a des très bonnes. Un partout entre Metz et Rennes.
Pâté de sardines, il y a l'huile d'Odon, c'est sans huile.
Villa de Conde, ils font des trucs pas mal aussi. Le Pedralta, ça vient de là-bas, là, dans la région.
Pedralta, on mange bien.
Monaco a battu 3-2. Un petit mot, messieurs, sur le match nul entre Angers et Montpellier. Angers qui est avant-dernier ce soir. Angers qui est le roi des nuls, sans jeu de mots, depuis le début de la saison. 9e nul pour Angers depuis le début de saison. C'est le record en Ligue 1 depuis le début de l'exercice. 7e match en victoire pour Angers.
Ça m'en touche une, ça va bouger.
Je vais t'expliquer un truc.
De quoi?
Une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls,
c'est une équipe qui est
elle se retrouve dans les 4 derniers en fin de saison.
Dans les 4 derniers?
En fin de saison.
Bah, deux et demi, on va dire, en France, parce que t'as les barragistes maintenant. Mais... Ils peuvent se sauver, donc,
Je parle dans le classement, après. Ouais. Sauver, pas sauver, ça, c'est pas mon problème, mais voilà.
Donc, t'inquiètes, toi, pour Angers, quand même?
Oui, très inquiet.
François?
Non, parce que c'est une équipe. Alors, le fait qu'ils aient retrouvé, même si c'est très dur de revenir après la rupture des ligaments croisés, mais Kemteo Fonfon, qui est le joueur un peu technique de ce club et qui fait la liaison dans les transitions défense-attaque. Voilà, il n'est pas encore en forme, mais je pense que c'est ce joueur-là qui, s'il retrouve le rythme et l'inspiration, doit leur permettre de se sortir un peu de ce mauvais pas. Maintenant, il faut là aussi qu'il y ait un retour peut-être aux fondamentaux, sauf que les fondamentaux d'Angers, c'est les coups de pied arrêtés, et c'est beaucoup de caisses et un gros impact physique. Donc, si physiquement, ils ont un coup de moins bien, Angers, ça se voit tout de suite que ça va pas bien.
Non, mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'un joueur aussi important que Chekendoy qu'on oubliait, on sent vraiment le trou au niveau de l'impact physique au milieu de terrain. Coup de pied arrêté, François, défensif. Coup de pied arrêté, offensif. Et pour Angers, c'est beaucoup. C'est pratiquement 50%. Et c'est là que le trou de Chekendoy fait beaucoup mal à cette équipe.
On passe au Paris Saint-Germain, les gars. Voilà, c'était la première affiche de ce samedi. Le PSG qui s'est imposé 3-1 face à Lille. Di Maria, qui était titulaire aujourd'hui, a planté le premier but à la demi-heure de jeu. Pastore a suivi à la 49e. Et dans le temps additionnel, c'est Kylian Mbappé qui a marqué le dernier but, une chevauchée dans un but vide, puisque Maignan était monté sur un corner en toute fin de match. Et donc, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Alors, le PSG qui restait sur deux défaites, face au Bayern et face à Strasbourg. Tiens, avant d'analyser ce match, on va écouter l'analyse, justement, le sentiment à l'issue de cette rencontre de Marco Verratti. Pour lui, c'était une bonne prestation de la part des Parisiens.
C'est la victoire, mais aussi de faire une bonne prestation. Après, bien sûr qu'après une bonne prestation, on cherche toujours les 3 points. C'était très important après deux défaites. Je pense qu'on a fait une bonne prestation. Aussi, c'est On arrivait dans les dernières deux minutes qu'on a souffert un peu parce qu'ils sont revenus au score, mais je pense que c'était une victoire qu'on a méritée.
Voilà, c'était une bonne prestation, vous avez compris.
Disons, c'est surtout la seule phrase qu'il connaît, c'est pour ça qu'il a dit trois fois.
C'est relou, s'il a dit la même contre le Bayern, il ne va pas être bien.
Non, mais quand il gagne. Et quand il perd,
c'était une mauvaise prestation.
Et quand il perd, il dit voilà, exactement.
Il a parlé de lui à la troisième personne, puisque lui n'a pas fait un mauvais match. Notamment, il a
heureusement,
un magnifique triangle entre Cavani, Di Maria et Pastore sur le deuxième but. C'est lui qui arrache le ballon dans les pieds lillois. Donc lui, il a fait une prestation passable.
Alors qu'il y a d'autres
joueurs.
D'autres
joueurs aussi, mais d'autres ont été moins bons.
D'autres joueurs qui ont été pas du tout bons.
Oui, qui n'étaient pas dans le coup.
Qui sont passés complètement au travers.
On va ouvrir la page que tu avais commencé à amorcer dans les trois points, Ali, elle concerne Kylian Mbappé. Alors reviens un petit peu. Quel est ton sentiment concernant Kylian Mbappé alors? Il y a eu pas mal de réactions sur l'hashtag RMC Live déjà.
Moi, ce que j'aime bien chez un jeune joueur qui brille et qui commence à briller, c'est un petit peu, comment dire, ce qu'il commençait à faire progressivement à Monaco, tant qu'il était à Monaco et c'était très bien. C'est un petit peu une ligne de conduite progressive qui monte, où il est très bon, il s'appuie sur ce qu'il fait très bien, il parle très bien, je veux dire, en dehors du football, ça c'est bien. Et puis le problème du PSG, ces dernières années, c'est que il y a des jeunes joueurs qui montent du centre de formation et qui arrivent en équipe première, et on les oblige à jouer d'une certaine façon, comme veulent bien jouer Thiago Silva, comme veut jouer Thiago Motta, et de suivre un petit peu cette façon de jouer de dilettante. Par des moments, Rabiot le faisait aussi. Ah ben non, je veux jouer comme... Non, garde ta façon de jouer, garde ta jeunesse, t'es en progression, ne regarde pas ce que font des joueurs confirmés, c'est leur problème. Toi, tu dois continuer à démontrer et travailler. On dit souvent que on a un problème au PSG entre la fin de la formation et l'équipe première. Et il y a un trou ici, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sont noyés. Mais dès qu'ils passent en première, ben d'un coup, ils veulent jouer un petit peu comme les chevronnés, alors qu'ils sont encore dans la progression, et ils ne le suivent pas. Et quand je vois Kylian Mbappé, ces derniers temps, au parc, il est en train de suivre la mauvaise ligne de conduite pour sa progression personnelle. Parce qu'il faut le dire, il n'a pas encore terminé.
Mais tu veux dire quoi, qu'il a un rythme de sénateur déjà, c'est ça?
Qu'il est en train de suivre le rythme des autres joueurs confirmés. Et il ne doit pas le faire. Il doit continuer avec son insouciance, et c'est toujours cette envie de bien faire et non d'essayer de jouer comme les autres joueurs qui sont déjà confirmés et qui ont plusieurs matchs depuis longtemps. Il prend la mauvaise décision alors qu'il a toutes les qualités pour. Je l'ai vu encore ce soir, j'aime bien quand je vais au parc, t'entends me focaliser sur un joueur ou sur Neymar, comme la dernière fois où j'ai compté les ballons perdus qu'il avait perdus. C'était énorme pour un joueur de son calibre qui veut être ballon d'or. Et ce soir, je suis resté focalisé sur Mbappé avec son jeu sans ballon et avec ballon. Malgré ça, parce qu'il a les qualités, il fait une passe décisive sur Di Maria, il marque le dernier but, mais tout le reste du temps, toujours les mauvais choix, perdu une multitude de ballons, éviter les contacts des défenseurs, alors que c'est un joueur confirmé et qui aime le 1 contre 1, ce qui fait beaucoup...
Non, c'est pas un joueur confirmé, pour le coup.
Non, alors que c'est un joueur confirmé, lui, au niveau des 1 contre 1, il évite
dans
les
ce
contacts.
Secteur de jeu, d'accord.
Donc, c'est-à-dire sa force, c'est les 1 contre 1. Donc tu ne peux pas éviter les contacts quand tu fais les 1 contre 1. Et là, il passait son temps à éviter les contacts pour ne pas avoir de bobos, pas se blesser. À son âge, il ne peut pas, il n'a pas le droit.
Non, moi, je ne suis pas d'accord François. Avec toi, Ali. Je suis d'accord juste sur un point, c'est que ce soir, on a tous remarqué, et moi avec vous, qu'il n'a pas fait un bon match. Ça peut lui arriver. Il ne nous a pas fait toujours des superbes prestations, mais il en a fourni quelques-unes qui étaient vraiment, et on s'accorde tous pour le dire, pour cet âge-là, et moi je vais revenir sur l'âge de Kylian Mbappé, qui n'a pas encore 19 ans, qui sont hors normes, hors catégorie, et je ne parle pas que des statistiques, mais je parle du volume de jeu, de ce qu'il démontre à travers sa maturité. Moi je trouve que tu es trop sévère parce que tu t'appuies, non pas tu te sers, mais tu t'appuies sur ce match ce soir pour, je trouve, critiquer, mais d'une manière un peu exagérée, Ali, ce joueur qui fait des mauvais choix, qui se complique la vie et qui prend exemple sur certains leaders de ce vestiaire qui ont tendance un peu à tricoter, à porter le ballon.
Hein.
Oui, mais je suis pas d'accord avec lui parce que moi je le mets plus sur son immaturité et son manque encore de personnalité dans ce club et dans ce vestiaire.
Il n'a pas de personnalité pour son
âge. Je pense qu'il a la personnalité. Mais oui, mais regarde, c'est un gamin de 18 ans avec la personnalité d'un gamin de 18 ans. Il vient d'arriver en équipe de France. Qui est une équipe de France maintenant qui est un club presque.
Je sais pas.
Avec des joueurs confirmés. Il arrive aussi dans un vestiaire parisien avec forcément une étiquette de deuxième plus gros transfert de l'histoire, avec des joueurs avec qui, bon, bah, il va triper d'avoir envie de jouer avec eux. Et moi, quand je le vois célébrer comme il célèbre ce troisième but que, entre guillemets, ma grand-mère aurait pu marquer.
Non, je pas sprinter comme ça, ta grand-mère.
Non, mais parce que je trouve que voilà, ça fait partie de son immaturité. En exagérant, Kylian Mbappé a aussi, et il faut lui donner ce droit-là à lui, le lait qui coule du nez. Il fait des choses très bien, mais on ne peut pas trop attendre encore de ce joueur. Et s'il copie des Neymar, il copie le rythme un peu nonchalant d'un Dani Alves ou d'autres joueurs, j'ai l'impression que tu fais référence au Brésilien finalement. Hein.
Pas du
certainement
tout.
Pas à l'Uruguayen qui est en face de lui. Mm-hmm. Ça fait partie un peu du bagage de ce mec-là.
La question a été posée à Unai Emery ce soir, justement sur le contenu, sur la prestation. Et on va l'écouter, Unai Emery, regardez ce qu'il a pensé du match de Kylian Mbappé.
Je suis content de le contenu. Peut-être plus important de le contenu. Parce qu'il a passé les 90 minutes et beaucoup de choses positives pour l'équipe, pour le groupe. Et parce qu'il a participé à autre jeu qui n'est pas joué le mardi. Et il a fait avec une bonne performance. Il a marqué but comme Angel et comme Pastore. Et aussi, nous avons maîtrisé mieux les matchs que les derniers matchs dans les championnats, contre toi ici ou contre Strasbourg.
Voilà, il le défend, donc vous l'aurez compris. Enfin, défend.
C'est normal.
Il analyse son match de façon positive.
C'est normal, mais pas le contenu. Oui, dans le contenu, ce soir, il n'y est pas.
Ah non, il a été catastrophique.
Dans le contenu, il n'y est pas ce soir.
Dans les faits, des buts,
il n'est pas tranchant.
Par contre, pour revenir à ce que tu dis, François, son attitude par rapport à des joueurs confirmés au PSG, elle est mauvaise, dans le sens où il les suit, la mauvaise attitude qu'il joue. Par contre, quand il est en équipe de France avec des joueurs confirmés, il ne joue pas de la même façon. Il n'a pas la même attitude.
Mais c'est pas le même management.
Non, c'est
je pense
pas
qu'il y a un
ça.
Type qui tient la baraque en équipe de France c'est et un qui commence un peu à la lâcher avec le Paris Saint-Germain.
Non, mais c'est pas ça.
Le patron du vestiaire parisien, il est brésilien. Il n'est pas espagnol.
Attendez, moi je vais juste relancer sur un truc. Vous trouvez qu'il n'a pas été bon dans le contenu aujourd'hui, Mbappé?
Ce soir, non.
Bah, on l'a pas vu le même match alors.
Non, on l'a pas vu le
même match. On l'a pas vu le même match alors, les mecs.
Ça peut arriver.
Tu l'as trouvé bon.
Moi, je l'ai trouvé bon, oui. Moi, je l'ai trouvé.
Tu l'as trouvé qu'il a
après,
réussi.
Après, il y a un truc, c'est que Mbappé, même quand il était à Monaco, il a un jeu.
Non, mais il a un jeu
qui suscite le déchet. Donc, c'est comme ça. Il doit tenter, il dribble, machin.
Je ne parle pas de déchet. Il a perdu tous ses ballons. Mais je l'ai suivi. C'est pas compliqué. J'étais assis à côté. Je passais mon temps à regarder.
Moi, j'étais assis devant ma télé, donc je l'ai bien vu aussi, tu vois.
Perdu.
Moi, j'ai pas vu qu'il a perdu.
Moi, je regardais le grand écran que j'avais là sur le terrain. Ce qu'il faisait même quand
c'est quoi, reste avec nous, regarde avec nous.
Il n'est pas catastrophique son match. Il est juste pas bon.
Mais
il a le droit de le rater ce match. Ouais. Il n'est pas catastrophique.
Non, par contre,
il fait
dans les buts. Si tu regardes,
il a du déchet technique. Non, mais après son jeu a du déchet.
Si tu regardes sur le Instagram, si vous avez
ce que je veux dire par là, c'est que il me montre exactement que quand il va à l'équipe de France, il se retourne pour lui. Il n'a pas des joueurs confirmés, donc il s'exprime comme il s'exprime habituellement. Dès qu'il retourne au PSG, il se retrouve face à des joueurs pour lui très confirmés. Moi, je le dis.
Ali, il y a des joueurs confirmés en équipe de France.
Pour Mbappé. Pour Mbappé. Sa façon me démontre qu'en équipe de France, il n'a pas l'impression que ses joueurs sont plus confirmé que lui qui vient de débuter, alors qu'au PSG, il se sent à des années-lumière d'un Cavani, d'un Neymar, d'un Thiago Silva et d'un Alves.
Les réactions commencent
c'est
à tomber sur le hashtag RMC Live avant d'accueillir Tariq au 32-16. Max nous dit Mbappé mauvais ce soir, mais vous êtes de grands malades, c'est encore le meilleur avec Verratti. D'accord, pas d'accord, on attend vos réactions d'ailleurs sur le hashtag RMC Live. Et on va accueillir Tariq, supporter du PSG qui nous a appelé au 32-16. Salut Tariq.
Salut tout le monde.
Désolé pour l'attente, Tariq. C'est que les deux, quand ils s'y mettent, ils sont inarrêtables, tu le sais.
Je vous écoute. D'habitude, je suis d'accord avec toi, Ali, en général. Mm-hmm. Et là, je suis en train de bouillir depuis tout à l'heure. Et franchement, je crois qu'on n'a pas vu le même match.
Moi, je suis d'accord.
Donc, Mbappé était bon.
Mbappé, il a fait une passe décisive.
Non, oui, je suis d'accord, Tariq. Non, j'ai pas dit qu'il n'était pas décisif.
Laisse-moi terminer. Alors sur le début du match, il s'est pris beaucoup de coups. Ça dit qu'il allait pas au contact. Peut-être qu'il voulait pas se blesser ce match-là. Il s'est dit qu'il voulait pas se blesser, etc. Mais début du match, il s'est pris énormément de coups. Il a fait une passe décisive. Il a marqué un but. Il a donné un caviar à Pastore. Il a eu un poteau. Le mec, il a provoqué. Certes, il perd des ballons, mais c'est son rôle de provoquer. Contrairement à Di Maria qui fait plus rien du tout. Mbappé. Il a été bon. Il n'a pas été exceptionnel ce soir, mais il a été bon. On peut pas dire qu'il a été catastrophique.
Ah non, êtes... il a pas été catastrophique. On dit pas qu'il a été catastrophique.
Si, vous l'avez dit.
Ah ben moi je l'ai pas dit. Moi je l'ai pas dit. Je pense pas avoir entendu Ali le dire.
Non, c'est moi.
T'as dit qu'il était catastrophique.
Non, je t'ai pas dit. Il a été catastrophique. Il a perdu tous les ballons pratiquement. Déjà d'une. Il a fait. Attends, Tariq, il a fait tous les mauvais choix. Et tu sais quand tu m'as dit en première mi-temps, je l'ai regardé exprès. Il a pas pris des coups. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps? Il s'est fait bouffer par l'arrière-gauche.
Et on revoit sa passe D sur le but d'Imaria. C'est lui qui débloque le match.
C'est ce que je dis.
Bah voilà.
Sur la seule chose qu'il a fait de bon, c'est sa passe décisive. Et c'est quelque chose d'important dans un match. Je suis bien placé pour le savoir. Mais pendant 45 minutes en première mi-temps, il n'a pas pris de coup. Il s'est fait bouffer par l'arrière-gauche.
Après, là où je te rejoins, j'ai remarqué qu'il commençait plus à avoir un... Il devient peut-être un peu plus arrogant que lorsqu'il était à Monaco. Quand il tape le ballon, quand il s'énerve sur les panneaux publicitaires.
Non, mais c'est pas de l'arrogance. Avec...
Ça c'est pas de l'arrogance.
Il est énervé parce que je pense que lui aussi
a
trouvé qu'il
il
était pas
énervé, agacé parce qu'il ratait
il était
tout,
pas trop
parce qu'il perdait tous les ballons. La preuve, c'est qu'il est allé mettre un coup de pied au défenseur lillois. On est dans la deuxième mi-temps parce qu'il, pour l'instant, il ne réussissait pas encore son match. Sur le coup, il fait une passe décisive. Il marque un but à la fin, mais je le compte même pas. Après, il donne un bon ballon à Pastore. Mais tout le reste du temps, tu sais ce que tu fais, Tariq? Juste pour t'amuser, tu revois le match.
Tu mets tes dents dans la prise.
Et tu restes focalisé sur Mbappé. Simplement ça.
Bah, la prochaine fois, regarde, tu m'invites au Parc des Princes.
mais Tariq, c'est avec plaisir.
C'est quoi, Tariq? De toute façon, il mate les matchs à la télé quand il va au parc. Donc, tu sais quoi, tu files ta place à Tariq.
C'est avec plaisir.
Tu restes avec nous.
Non, voilà.
quand
je t'ai dit sur grand écran, c'est que je parle du terrain, je regarde pas sur la télé.
Ah,
je suis pratiquement à côté de la pelouse. Ouais. J'ai cette chance-là. Donc, je peux voir. Pas un 16-9e, un 24-6e.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de débat, Ali. Je trouve qu'il a juste pas été
du potentiel du
bon
joueur
ce soir.
La preuve, c'est que.
Je trouve que c'est un des meilleurs parisiens depuis le début de la saison, sauf qu'ils sont dans
une
phase là qui n'est pas top.
Parce qu'il m'avait perdu. Je l'ai compté. Je suis un joueur qui, de temps en temps, je compte les ballons perdus quand tu tentes les choses. Et il faut tenter. J'en étais pratiquement à 21 ballons perdus de Neymar.
Mais parce que pour un joueur. Ce soir.
Non, mais pour un joueur de son calibre, je te parle. Et Mbappé, face à un arrière-gauche de Lille qu'on ne connaît même pas le nom, 45 minutes...
Oui, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu ne connais pas le nom que le mec est mauvais, Ali. Ça ne veut rien dire.
J'ai pas dit qu'il était mauvais.
Non, mais d'accord.
Mais tu peux tomber des fois sur des arrière-gauches qui sont très forts et très durs à passer.
Oui.
Il n'est pas passé une fois et pendant 90 minutes. Après, il s'est énervé sur lui parce qu'il n'arrivait pas à le passer pour un joueur qui est énorme, qui a des énormes qualités en un contre un.
Attends, tu ne connais pas Edgarier en plus? L'arrière-gauche de Lille.
C'était juste une syllabe en plus.
Il est international portugais, mon pote. Tu sais que je vais me lever, je vais me barrer là.
International portugais, je crois pas qu'il joue.
Vous étiez assis là.
Bah, il vient d'être appelé en équipe nationale.
Oui,
oh,
ils
salaud.
Bien sûr que j'étais. Ils sont tous appelés. Même Ronny Lopez, ils l'ont appelé. Alors.
Il a essayé de le découper à la fin du match. Hein. Ouais. Il a essayé de le.
Ouais,
de
mais charcuter. Bon, parce qu'à un moment, faut pas déconner, tu vois. C'est pas, faut pas un peu.
Non, c'est juste. Ça. Tariq, revois le match. Je te remercie.
Alors, Tariq, je crois que tu voulais réagir sur autre chose aussi. C'est sur le coaching d'Unai Emery. Alors, il en parlait un petit peu tout à l'heure, d'ailleurs, François, notamment la gestion du cas Meunier et Alves.
Oui, Meunier, Di Maria qui sort au bout du
match. Non, 73e, Di Maria. Il sort. Ce qui est assez suffisant pour faire entrer aussi les
Draxler. Mais pourquoi tu le sors?
C'est à la 73e. Il va sortir qui?
Il fait un bon match.
Je pensais qu'il allait sortir Mbappé.
Il n'est pas dans le coup. Alors donne-lui du temps de jeu, donne-lui de la confiance.
Ben, la preuve, c'est que
c'est Alonso qui a joué à gauche du côté de Lille. Parce que Diarrié, il est défenseur central.
Moi, et Tariq, il voulait dire quoi? Alors moi, ça m'intéresse ce que veut dire.
C'est lui qui a joué à gauche et c'est pour ça que Mbappé n'est pas passé.
On peut laisser parler l'auditeur?
Pardon.
Oui, Tariq.
Le truc, c'est qu'on a l'impression que Emery, il n'a vraiment pas la main sur son vestiaire et on a vraiment l'impression de l'extérieur que c'est Alves qui décide de quand il...
Ouais, mais on disait la même chose de Laurent Blanc, Tariq, rappelle-toi.
Ouais, mais oui, mais c'est le problème.
C'est exactement la même chose.
Non, c'était pas la même chose.
Je pense que ça vient vraiment... Il a pas les pleins pouvoirs.
Non, moi je suis entièrement d'accord avec Tariq. J'ai quelques infos qui me reviennent là-dessus aussi. Laurent Blanc, c'était en fait... Jean-Louis Gasset qui jouait le rôle d'entraîneur officieux du Paris Saint-Germain, avec évidemment un groupe, comme on en a toujours besoin, de leaders dans le vestiaire, et plutôt tendance sud-américaine.
Et le groupe faisait avec Zlatan, avec un moment David Luiz et Mota, chacun faisait ce qu'il voulait.
Et le Suédois. Là, l'impression et quelques retours parfois qu'on peut avoir, et moi je suis pas journaliste, je suis consultant, mais il y a beaucoup de journalistes et plutôt des bons sur notre antenne, c'est que c'est Dani Alves qui, alors qu'il vient de débarquer, s'est imposé comme le patron de ce vestiaire et que il commence depuis quelques semaines à se confirmer que Unai Emery, son message passe moins auprès de certains joueurs du vestiaire.
Il s'est pas imposé tout seul, Daniel Alves. Il a Thiago Silva avec lui. Il a la star Neymar et il y a Maxwell qui est aussi là.
Oui, mais le patron du vestiaire, ça doit pas être un joueur, ça doit être l'entraîneur.
Eh ben là, le problème, c'est ça.
Tu te reposes sur Daniel.
Regarde bien. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a? Il a le capitaine qui est là depuis longtemps, qui est important, Thiago Silva. Il a la star qui est aussi avec lui, Daniel Alves, il se met Neymar dans le monde. Et il a Maxwell, qui est censé être, je veux dire...
Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire que c'est impossible pour n'importe quel entraîneur?
Mais il est foutu, Emery, là.
C'est juste Emery qui n'a pas... Ce qu'il a réussi à faire à Séville, mais il n'a pas la capacité de le reproduire dans un vestiaire
mais
comme celui du Paris
Saint-Germain. Parce qu'à Séville, tu n'avais pas des stars à Séville. François.
Oui, tu n'avais pas des stars.
Pas.
Donc la limite,
au PSG, tu
la limite de Unai Emery, c'est de gérer un vestiaire avec les égos de ce calibre.
Mais quel est l'entraîneur qui est capable à la place? Ce n'est ni Laurent Blanc, ni Emery, ça va être ou du Simeone, ou du Mourinho, les mecs qui s'en foutent, qui jouent ou qui jouent pas.
Tariq,
on est d'accord là-dessus.
Merci de nous avoir appelé, mon gars.
Merci à vous.
Je t'inviterai au parc, Tariq.
Ah, bah franchement...
Laisse ton numéro.
Tu vas vraiment le faire ou pas?
Bien sûr.
Alors vas-y, ne raccroche pas, prends ton numéro. Et si jamais il le fait pas, eh ben il le fait pas.
Voilà. Toi, t'es suspicieux, toi. Hein.
Bah, attends, mais tu fais pas d'annonce aux
Ali Benarbia,
bah, c'est vrai. Pardon, bah, Ali.
C'est sinon, classe, je dirais pas.
Et tu m'invites quand?
Franchement.
Où? Bah au parc avec ma
mais
femme.
Tu regardes la télé avec ta femme, toi. C'est ce que t'as dit.
Bonne soirée, Tariq. À bientôt.
Merci.
Bonne
merci
soirée, Tariq. Merci,
ciao. Tiens, non, Jérôme Thomas vient d'avoir une idée de génie qui vient de me souffler dans l'oreillette, messieurs. Vous savez, on parlait d'Edgarier, donc il est IE, c'est son nom de famille. Il faut faire un 11 de joueurs avec un nom à deux lettres. Donc on a trouvé Ibrahim Ba.
Pourquoi deux lettres? Ié, t'as dit. C'est une syllabe.
Mais il y a deux lettres.
Oui, mais il y a deux lettres qui constituent la syllabe.
Comment tu l'écris, Ié?
I-E, je viens de le dire. I-E.
Oh là là. C'est...
Donc y a, on a trouvé Ibrahim Ba. Il y a Bokou Njika. Vous savez, l'ancien, le Bissau guinéen. L'ancien joueur de Tours.
Il n'y a pas eu un Pi, non, à un moment donné?
Il y a Jesse Pi.
Ah oui.
Il y a Jo, le Brésilien.
Jo.
Et on attend vos propositions sur le hashtag RMC Live, bien entendu.
Ah ben tu
es. C'est le jeu de ce soir.
Vois du côté.
Les
de...
familles en deux lettres de football.
J'en ai beaucoup du côté de la Chine et la Corée du Sud.
Ni. Ah ouais.
Ou.
Ah, il y a des O.
Suc, mu.
Non, c'est trois lettres, suc. Trois lettres, il a dit
non,
deux
mais
lettres.
C'est
pas une syllabe, lettres.
Deux lettres ou une syllabe?
Non, deux lettres.
Deux lettres. Hein.
Deux lettres.
Ah non, deux lettres.
Hein, c'est t'écoutes pas.
Attends, suc, c'est bon, tu me la laisses.
Non.
Messieurs Akéon, Christophe, autre supporter du Paris Saint-Germain qui nous a appelé au 32-16. Salut Christophe.
Bonsoir messieurs.
Salut Christophe.
Bonsoir Christophe.
Alors, quelle est ton analyse, toi, de la victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 3-1 face au LOSC?
Une purge. Alors quand Ali il propose à Tarek de le regarder le match, il est grand malade, c'est un grand malade. Franchement, moi je vais pas le regarder deux fois. Hein.
T'as raison.
Non. Non mais sérieux, non mais sérieusement. Mais ça joue à deux à l'heure, Pastore qui est à la ramasse complètement. Il met un but, on va dire, oh c'est un génie, il fait un coup de foulard, c'est oh, magnifique. Non mais Di Maria, c'est une gros pointé. Alors je te parle. Alors. Là où ça m'inquiète encore plus, c'est quand j'entends Tarek qui dit « Ouais, Verratti, il a fait un super match !» Non, mais vous déconnez, les mecs, oh. Il a fait un super match, Verratti. Mais il a fait 17 fautes, on sait même pas comment il finit sur le terrain. Mais c'est insupportable, cette équipe.
T'es pas content.
Et là, où, là franchement, content, ce qui m'énerve content, le plus, ce qui m'énerve le plus, franchement, c'est Emery. Sa manière... De gérer cet effectif, mais comment tu peux laisser encore Meunier sur le banc? C'est ce mec, il est en train de détruire un collectif, mais complet. C'est-à-dire qu'il a donné les clés aux Brésiliens, et en fait, il faut plus qu'on s'appelle le PSG, quoi. Il faut qu'on s'appelle Brésil.
Ah, tu l'as bien dit là. Brésil.
Non mais Dani Alves, c'est une chèvre, et ça fait c'est une chèvre depuis 5 matchs. Il faut arrêter de déconner. C'est pas parce qu'il met un but d'enfer contre le Celtic que ça va bien. Je suis désolé. L'effectif aujourd'hui, il y a les Brésiliens d'un côté, un Uruguayen devant, et ensuite, deux, trois Français et l'Italien qui se balade. Mais sérieusement, c'est plus possible de jouer comme ça. C'est quand même, on a 400 millions de recrutements.
Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire, Christophe, pour toi?
Bah, déjà, tu vois, il faudrait dire à Mbappé, pour commencer, qu'il arrête de faire du Neymar.
Mmh.
Parce que déjà, on en a déjà un nombre de ballons incalculable sur un match.
Qui a pas joué ce soir, Neymar, on le rappelle. Mmh.
Non, mais il a pas joué ce soir. Mais quand Mbappé, moi, ce que j'aimais dans ce gamin, c'était ce pouvoir de
cette
de
fraîcheur,
cette fraîcheur, ce football incroyable. Voilà. Aujourd'hui, il fait du Neymar et des passements de jambes et je te passe la balle derrière et je te fais une talonnade. Alors il prend des coups. Après, il gueule, il se lève. Non, franchement, il faut qu'il retourne aux fondamentaux, ce gamin. Ensuite, il faut dire à Pastore, mais de toute urgence, ferme ta gueule. Joue au football. Si tu veux te barrer, tu vas pas pouvoir te barrer. Parce que là, tu vaux rien, mon pote. Ensuite, tu dis à Di Maria, si tu crois que tu vaux 70 millions d'euros aujourd'hui, mon ami, t'en vaux à peine 15. T'es un joueur moyen plus. Donc, il faut les remettre au boulot.
Ça, c'est un coach qui fait ça.
Non, mais quand tu vois Rabiot, ce soir, il a joué à 2 à l'heure. À mon avis, il pouvait jouer 6 à 7 heures d'affilée, là. Alors, franchement, tu me dis, ouais, on a gagné 3-1. D'abord, pour moi, on a gagné 2-1 parce que le dernier but. Mais quand tu vois la faiblesse de Lille, la faiblesse, et tu prends un but, mais déjà là, tu peux pas dire à Verratti, on a bien joué, performant. Non, mais déconne pas, mec.
Moi, je sens beaucoup de colère chez Christophe et pas beaucoup d'objectivité.
Non, je pense que c'est pas le seul.
Après, c'est son avis. Il a le droit de pas être content.
Non, mais évidemment, mais on a le droit d'être pas d'accord avec un avis.
Ah oui, non, ça aussi. Mais c'est pas le seul.
Voilà. D'avoir cette colère. Un tel, ferme ta gueule. Pastore, pas bon. Di Maria, pas bon.
On remercie Christophe qui nous a appelé.
Merci Christophe.
Juste, je vous donne une info. Vous savez que Neymar n'a pas joué ce match puisqu'il était absent. Il était suspendu. Il va être absent pour 3 jours pour raison familiale. Voilà, urgence familiale. RMC Sport, donc il a l'autorisation de s'absenter pendant 3 jours et va devoir retourner au Brésil lors des 3 prochains jours. On se retrouve dans quelques instants, on partira en Italie puisqu'il y avait le choc entre la Juve et l'Inter, choc de la 16e journée de Serie A. On ira également en Espagne puis en Angleterre parce que demain il y a pas mal de derby chaud bouillant du côté d'Angleterre. On sera avec Philippe Auclair également. On vous dit à tout de suite, 32-16.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et François Manarado, Simone Rovera nous allons rejoindre. Ciao Simone.
Ciao Simone.
Come va Simone?
Molto bene.
Molto bene perché l'Inter ha partito contro l'equipo di l'Inter della Juve che era la precedente giornata del calcio.
La Serie A. Je suis d'accord, mais pas en italien.
Allez gars, manque de respect, je fais un effort et tout. Je fais un effort pour ton pays, mec.
Non, c'est pas un effort, ça c'est pas un effort, ça c'est écorché.
Je parle pas en mode italien.
Sforzo.
Ma non, un effort.
Non,
mais pas sforzo. Mais un sforzo, sforza Italia.
Mais apprends, sois humble un peu. Depuis qu'ils sont champions d'Europe, ils ont un boulard. Champions d'Europe, ils présentent l'after. T'imagines ça? C'est le cocktail du boulard.
Comment on dit boulard en portugais? Boulardo.
On sent une pointe d'amertume champion d'Europe. Une pointe d'amertume champion d'Europe contre.
Ah, tu trouves, toi? Mais pourquoi? Ah, parce qu'ils ont perdu en finale. J'avais complètement zappé cette histoire. Ah oui, attends.
Le plus grand attaquant.
Tiens, en fait, tant que j'y pense, vous savez qu'on vous a lancé un petit jeu là sur le hashtag RMC Live. Faut qu'on se fasse un 11. Vous vous démerdez,
c'est
vrai qu'il
a des idées de génie.
Mais Jean Thomas, c'est un grand malade. C'est un malade.
Tu veux dire
un malade,
toi? Poste par poste.
Oui, bah alors, on peut faire 11 attaquants, mais c'est chaud.
Là, tu fermes le plateau.
Bouge pas.
Tu fermes le plateau.
Il faut faire un 11 de joueurs qui ont un nom de famille avec 2 lettres. Parce qu'on est parti des derrière.
2 lettres.
On est parti des. Alors, attends, il y a d'autres noms qui sont arrivés. Dembaba, bien entendu. Oui. Il y a Orlando Sá, l'attaquant portugais du Standard. Et José Sá, le gardien portugais
du Standard. Du Standard de Liège.
Sur l'attaquant du Standard de Liège. Bien sûr que je le connais.
Il y a aussi Mercure le connaît, lui, vraiment.
Mais t'es malade, toi?
Ça, c'est ce que tu viens de dire, là. C'est un peu.
T'as dit quoi?
Ligue du Nord, là. Il y a que des bas et des.
Alors bouge pas, il y a 6 également. Le 3e gardien de Monaco, on l'a trouvé également. Voilà.
Et moi, j'ai dit Pi.
Ah oui? François, il est allé chercher le 3e gardien de Monaco.
T'en as pas un, toi, en Italie, là, qui traîne? Un mec à 2 lettres.
Ibouba, mais bon.
Ça y est, on l'a mis.
C'est Italie. Mozzarella. C'est trop long.
Gabbiardini, ça passe
en
pas.
En Italie, t'as vu les noms, comment ils sont longs, les noms? En Italie,
mais sinon,
t'as
sinon, pas de lettres. Les présidents de Milan, les propriétaires de Milan, qui est Yongli.
Oui, mais il y a 2 lettres. Il y a 3 E, non? Ou c'est L-I? L-I ou L-E?
Mais c'est les présidents. Mais il peut faire le président, seul qui n'a pas beaucoup d'argent. Il a dit on peut dire à Jérôme Thomas que c'est une vraie idée à la con, quand même.
Non, arrête. Vraiment,
merci.
Il y a 3 E, L-I.
Bref, comme on dit en italien. 16e journée de Serie A, ça a commencé par Cagliari Samp, il y a eu 2 partout.
Cagliari.
La Serie A tonique, elle est son premier.
Attends.
Cagliari.
Quel est le but de la Samp? Vas-y.
Vas-y, c'est qui?
Eh non, mais j'attends ta prononciation là.
Vas-y, bouge pas, j'arrive. Attends, je te clique. Tu sais, Sarah, mais on a des problèmes de réseau en ce moment, c'est très compliqué. Mmh. Alors, bah, c'est quoi l'ARL, là?
Oh!
Donc 2-2. Mais alors le match qui nous intéresse, Simone, si tu veux bien bosser un petit peu, s'il te plaît, maintenant, mon pote.
Qu'est-ce que c'est chaud, ce match?
Juve Inter 0-0. Et t'es tout content, mon pote, parce que l'Inter reste en tête de la Serie A.
Pas longtemps.
Là, tu dis des choses que sont... tu rentres dans une sphère qui nous intéresse pas, parce que là, tu parles du match.
Voilà. C'est un match. L'Inter garde 2 points d'avance sur la Juve.
Oui, et demain, Naples peut passer devant, il faut le dire. Naples peut être, pour revenir en tête au classement.
Naples qui joue face à la Fiorentina.
Qui joue face à la Fiorentina, pas un match si simple. Mais on parle de cette Juventus-Inter qui laissera énormément de regrets à la Juve, à mon avis, qui a fait un match meilleur, qui a été dominatrice.
Il a joué Dybala?
Les parenthèses Dybala, on l'a vu plus tard parce qu'il a joué les dernières 15 minutes. Aïe. Il avait une sale tronche quand il est rentré
sur
la
traînée. Il est malade ou blessé?
Choix tactique.
Ah, il n'y a pas un départ de Dybala par hasard?
Bah, alors, quand on lui a demandé à la fin du match, Allegri, pourquoi ce choix, et il s'est un peu énervé, il a dit, mais vous êtes là à l'entraînement, vous êtes simple de parler de votre télévision, mais vous n'êtes pas à l'entraînement, vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc, on a l'impression qu'il
y a un masque, peu des crispations. Il masque quelque chose.
Quand même, en ces moments, Alessandro Del Piero, consultant Sky Sport, qui analysait les matchs, disait... un joueur comme ça n'est pas sûrement content de partir sur les bancs, c'est logique, mais comme Del Piero, c'est l'ancien numéro 10, c'est l'idole encore de tous les supporters de la Juve, va faire comprendre que se passe quelque chose de pas bien en ce moment, même s'il n'a pas dit en grande phrase, mais il a dit qu'il ne peut pas être content en ce moment, ça provoque beaucoup de bruit, ça fait plus de bruit l'exclusion de Dybala de la première minute que le résultat du match. La Juventus, pour vous dire, a fait 8 tirs cadrés, L'Inter 1, il n'avait plus de possession, plus d'occasion, une barre transversale de Mandzukic. La Juventus a eu un meilleur plan tactique. Mandzukic sur la gauche, comme d'habitude, a dévancé tout le temps d'Ambrosio, qui était toujours en difficulté, un duel physique, et s'est créé plus d'occasion avec Mandzukic. Mais l'Inter, après 15 minutes, on peut dire, elle a renoncé un peu à faire son jeu. Elle a cherché à faire des contres, mais ce n'était pas la bonne soirée pour Icardi, pas la bonne soirée pour Perisic. Kandreva encore n'était dans aucune action. Et au final, on peut dire que ces 0-0, c'est un résultat énorme pour l'Inter. Parce qu'on est un tiers de la saison. Et l'Inter a déjà joué à Rome, à Roma face à la Rome, elle a gagné. À Naples, et à Turin face à la Juve, elle est sortie avec 2-0-0. On peut dire que les adversaires les plus compliqués dans leur route au titre sont passés, sur les déplacements plus compliqués. C'est pas une équipe qui a l'effectif, qui n'est même pas l'once titulaire pour rêver au titre, mais se retrouve là, après 16 journées, devant la Juve, peut-être un point derrière Naples. S'il y a quelqu'un qui a fait une très bonne opération ce soir, c'est l'Inter. Sûrement pas dans les jeux, parce qu'encore une fois, elle a pensé surtout à bétonner derrière et pas prendre de risques. Quelques risques arrivés, mais quand même, il sort avec un 0-0. La Juve a montré d'être l'équipe la plus forte en Italie. Après avoir battu Naples, elle a dominé l'Inter, mais n'a pas gagné. Je crois que dans la saison, ça va être les matchs face aux petites qui vont décider qui va être champion. Et la Ligue des champions de la Juve, et encore pire, la Ligue Europa pour Naples, pourront faire bousculer les titres d'un côté et de l'autre. L'Inter, c'est encore toujours l'invité surprise.
Et Dybala, il en est où là? Il n'était pas titulaire aujourd'hui alors. Mais ça, c'est étonnant quand même dans un match pareil, non?
Et Higuain aussi, j'aimerais bien savoir.
Bah, Higuain, quand même, c'est l'homme en forme à ce moment de la Juventus. C'est l'homme qui a marqué, je crois, 9 buts sur les 15 derniers matchs. C'est vraiment l'homme qui, à partir de ce but face à l'Olympiakos au match aller, a été décisif. Les buts à Naples, bien sûr, encore. Dybala, c'est vraiment une mauvaise période. Tout part de octobre, tout part de ces deux pénaltys ratés à la dernière minute face à l'Atalanta, qui a fait perdre 2 points à la Juve, à la dernière minute face à la Lazio, qui a fait perdre 1 point. Les 0 minutes en sélection, où on comprend qu'il sera jamais à la hauteur de Messi, parce que avec Messi, il joue pas, et à la place de Messi, il joue pas, au moins en ces moments. Et donc, Dybala, c'est vraiment une mauvaise passe. Et ces phrases d'Allegri, vous êtes pas à l'entraînement pendant la semaine, fait comprendre qu'il se passe quelque chose. Déjà, il faut dire que plusieurs sites italiens, un surtout qui s'occupe des gossips, un peu des scandales, a parlé d'une grosse dispute dans le vestiaire de la Juve il y a quelques temps, avec trois joueurs qui ont demandé de partir. L'un, ce serait Alexandro, l'autre Cuadrado, les troisièmes Steiner, et il y aurait de la énorme tension dans le vestiaire de la Juve. Dybala n'est pas concerné, mais si c'est vrai ce qu'on dit en Italie, c'est vrai qu'à la Juve, c'est pas, comment dire, c'est pas Noël,
c'est pas serein,
c'est pas Noël, c'est pas Noël, mais quand même, on part d'une équipe qui est qualifié en Ligue des Champions.
Mais Dybala, il veut bouger aussi.
Il est allé s'imposer à Naples. Hein,
on a beaucoup parlé du Barça, notamment pour Dybala ces derniers mois.
Avec Messi.
Dybala.
Non, pourquoi pas. Si Dybala, c'est Messi qui l'a
doublé. Comprendre que lui, cette année, il aurait continué à la Juve. Et après, on verra. Mais c'est vrai que il y aura des offres qui arrivent. Dybala a quand même un salaire sur les 6-7 millions peut-être par an. J'y suis sûr qu'ailleurs, on peut lui offrir même les doubles. Donc, à un certain moment, si à la Juve, il voit qu'il n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions, et peut-être qu'il n'arrive même pas à gagner les championnats, il aura potentiellement des envies de départ. En ce moment, c'est sûr que Dybala n'est pas l'homme qui a survolé sur la Serie A et qui a été les patrons de la Juve sur les 10 premières journées, quand il a marqué tout le temps, elle était l'homme décisif.
Après,
aujourd'hui,
la question,
c'est plus un problème qu'une solution, Dybala.
Simon, est-ce que la question aussi, c'est est-ce que la Juve peut longtemps se passer de Dybala?
On l'a vu ce soir, quand même.
On l'a vu ce soir.
Beaucoup d'occasions sur Mandzukic, mais t'avais pas l'étincelle meilleur sur le terrain ce soir, Cuadrado, qui s'y faisait des matchs comme ça pour 40 fois dans la saison.
Ça mais il fait pas. On le sait.
Il fait 6-7. Donc,
non,
c'est
vrai
que
Cuadrado, son problème. C'est ça?
Marque pas après.
C'est l'intermittent du spectacle.
Si tu as un Dybala qui a une bonne soirée, ces matchs, tu les gagnes.
Tu les gagnes.
Merci, Simonet. Aujourd'hui, comme toute la semaine, comme ces derniers jours d'ailleurs, RMC vous offre l'occasion de gagner une expérience incroyable. Un e-coffret, bonne dose d'adrénaline. Vous pourrez vous essayer à la chute libre, à la conduite sur circuit ou encore au saut en parachute. Et ouais. Pour tenter de gagner ce très beau cadeau, il suffit d'envoyer After par SMS au 732-16. After, donc par SMS au 732-16. Bonne chance, on se retrouve dans quelques instants. On filera en Espagne avant d'aller en Angleterre.
RMC, le super football show. L'After Foot, Nicolas Villas.
Nous sommes avec Ali Benarbia, avec François Manardo, avec Simone Rovera. La Juve et l'Inter ont fait match nul 0-0 ce soir. L'Inter qui reste devant avec 2 points d'avance sur la Juve. Mais attention, Napoli qui jouera demain face à la Fiorentina. On file maintenant en Espagne. Fred Hermel est parmi nous. Salut Fredo.
Hola chicos.
Salut Fredo.
Ça va Fredo?
Ciao Fred. Oui, parce que j'ai vu un très beau match à Bernabéu aujourd'hui.
Alors
on
bouge pas.
On va y revenir après, mais on va commencer par Valence. Ce qui est plus chaud, plus frais.
On va pas commencer par ça. Je vous donne le résultat de cette 15e journée de Liga. Getafe Eibar 0-0. Le Real a donc battu Séville 5-0. C'est pour ça qu'il s'est régalé. Fred Hermel. Le Deport a battu Leganés 1-0. Et Valence a battu le Celta 2-1. Alors Valence qui maintenant est deuxième avec 2 points de retard sur le Barça, qui jouera demain à Villarreal. Déplacement compliqué. Fred le disait cette semaine dans l'After. Et donc Valence s'est imposé 2-1. Elle est importante cette victoire de Valence, qui a eu un peu de mal quand même, hein, Fredo. Hein.
Ben oui, mais ce Celta Vigo, il y a une semaine, a ramené un match nul 2-2 du Camp Nou. Donc c'est une équipe très sérieuse, dirigée par Juan Carlos Unsue, qui était l'adjoint de Luis Enrique au Barça, et qui tactiquement est vraiment un mec très très fort. Donc ça a été compliqué, ils ont eu besoin d'un petit penalty. Allez, je vais pas dire qu'il est gentil parce qu'il y a vraiment faute, mais enfin c'est un penalty que tous les arbitres ne siffleraient pas, pour un contact dans la surface, rien d'extraordinaire, transformé par le Palero. Victoire 2-1 et Valence qui tient bien sa deuxième place après l'échec de la semaine dernière, puisqu'ils avaient perdu à Getafe.
Très bien. Donc dans la douleur quand même pour Valence. Et alors le match qui t'a vraiment régalé, c'est cette victoire du Real. Et 5-0 face à Séville.
Goléade, hein.
Et 5-0.
Ouais. Parce que
la manita, oui, oui.
Le meilleur Real depuis 3 mois, tout simplement. Et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de parler à Zizou, de parler à Bettoni, David Bettoni, son adjoint. Bah ils sont ravis, quoi. Ils avaient besoin de ça. Et David Bettoni m'a même dit une chose géniale. Il m'a dit, c'était l'orgueil des champions. Voilà, ça fait 2 mois que c'était dur. Qu'ils perdaient des points, qu'il y avait des matchs pas terribles, ils n'ont terminé que deuxième de leur groupe de Ligue des Champions, ils sont quand même toujours à 8 points du Barça, enfin plus que 5 points en attendant le Barça de demain, qui a un match en moins, puisque ils jouent à Real, tu viens de le dire, et il y avait vraiment le sentiment que ça allait décoller. Zizou le savait, et Zizou disait, il ne manquait que le but. Bon, il y en a eu 5 ce soir. Ils ont et surtout, quand le Real a marqué grâce à Nacho sur une grave erreur de la défense de Séville, au bout de 3 minutes, bon, ben voilà, 3 minutes, tu mènes et après, ça déroule. Cristiano est dans une très bonne forme physique, Nico. Il est bien. Il est vraiment bien. Dans sa tête, bah, il a gagné son 5e ballon d'or. Oui. Il a marqué un doublé aujourd'hui. Benzema n'a pas été chanceux, mais dans le jeu, il a été fabuleux.
Il n'a pas marqué, Karim Benzema. Alors, Nacho, non, Nacho a marqué, doublé de Cristiano, ouais. Kroos et Hakimi.
Et Achraf, pas mal, Achraf, hein. Ouais. Ah bah c'est un super joueur, hein. Achraf, il y a 3 mois personne ne le connaissait.
C'est vrai.
Aujourd'hui il peut jouer titulaire un match, un sommet de la Liga comme un match, ce match contre Séville, et puis il est titulaire au Maroc, il va faire le mondial. Donc vous imaginez contre l'Espagne et le Portugal. Donc vous imaginez la progression de ce jeune joueur qui remplaçait Carvajal qui était suspendu, Ramos suspendu, Casemiro suspendu. Il fallait une défense, Varane blessé, et c'était une défense de circonstance, et on a vu le jeune Bayero qui a fait un match absolument superbe. Donc ça va beaucoup mieux du côté du Real. Et d'ailleurs, vous savez, les bêtes sauvages, quand elles commencent à sentir le sang, ça les excite, elles commencent à prendre de la force. Le Real, quand ils commencent à sentir les trophées, il se refait la cerise. Demain ils partent à Abu Dhabi où ils vont jouer le mondial des clubs. Voilà.
J'ai une question. Le Séville sans Nzonzi, ça donne quoi?
C'est moins bon. Mais Nzonzi, il a des problèmes personnels avec l'entraîneur. Pauvre entraîneur d'ailleurs, l'opération s'est bien passée, qui vient de t'opérer d'un cancer de la prostate. Toto Berizzo, c'était son adjoint qui était aujourd'hui à Bernabéu, bien entendu. Alors ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'Nzonzi n'est plus dans l'équipe. Il a un comportement, alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais enfin il n'a pas un comportement très professionnel, et il va être vendu au marché d'hiver, au mercato.
Adé, c'est pour toi c'est quasiment assuré?
La situation aujourd'hui, ça fait quand même 2 ou 3 matchs où il n'est même pas sélectionné,
mais c'est allé très très vite, hein, en tout cas Frédéric, qu'il le titularise contre Liverpool. Ils sont menés 0-3 au bout de 45 minutes, il sort Nzonzi et il fait rentrer Vasquez, je crois, et puis ils reviennent à 3-3. Effectivement, ils ont dit. Moi, j'ai toujours trouvé que quand Séville a l'emprise sur le jeu et qu'il domine, c'est un peu comme Thiago Motta, c'est-à-dire cette faculté à temporiser le jeu est très propre dans les passes. En revanche, quand il faut l'accélérer, c'est pas forcément le joueur idéal.
Il conduit beaucoup,
mais
quand même.
Mais de là à le sortir. Ouais. De là, le sortir le fait, et au profit de qui d'ailleurs?
Attends, un entraîneur, il est là pour faire gagner l'équipe, il a le droit de faire ses choix. Il a le droit de faire sortir un joueur à mi-temps. Alors, et si un joueur professionnel n'est pas capable de comprendre que c'est pas forcément une attaque contre lui, mais peut-être parce qu'il faut trouver une solution et qu'il faut faire entrer un joueur offensif, et Basquez, c'est un joueur offensif par rapport à Nzonzi, s'il n'est pas capable de comprendre ça, il n'a rien à faire dans le foot.
Donc, le problème viendrait de là.
Oui, alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Franchement, j'essaye de savoir, mais personne n'a réussi à me répondre. Mais c'est dommage parce que l'an dernier, il était bon, Nzonzi, quoi. Mais vous savez, tous ces mecs qui ont un melon pas possible et qui comprennent pas qu'il y a un type qui a une autorité sur eux, qui s'appelle l'entraîneur, ils peuvent pas faire de grandes carrières, ces gens-là. C'est pas possible.
Fredo, paraît que t'étais avec Zizou à la fin du match.
Ouais, donc bien sûr.
Tu veux pas qu'on l'écoute? Il s'est confié à ton micro.
Ben oui, parce que il faut écouter. Quand Zizou parle de Cristiano, c'est toujours très agréable.
Eh ben, on y va, on l'écoute.
J'espère en tous les cas qu'il va avoir son rythme de croisé. En tous les cas, moi je doute pas. On a dit attention à Cristiano, et ce qui me fait dire ça, en fait, c'est pas juste pour dire ça, c'est parce que c'est sa détermination, en fait, qui me fait dire ça chaque jour. Pas simplement quand le match arrive, c'est tous les jours, en fait. Lui, il est convaincu que de toute façon il va marquer quoi qu'il arrive. Donc voilà, quand il marque pas, ok, il est pas content, ça parle, mais à l'arrivée il faut faire attention, encore une fois.
Et voilà donc l'analyse de Zizou après le 5e ballon d'or remporté par Cristiano. Merci mon Fredo.
On place dans le contexte simplement, c'est que mardi il a dit, mais arrêtez, parce que plein de gens vont dire ouais, la décadence de Cristiano, il dit attention à Cristiano, il va se réveiller là. Le lendemain, il marque un but contre le Borussia et aujourd'hui, il fait un match superbe avec un doublé. Et en plus, je termine là-dessus, comme Benzema a du mal à marquer, Cristiano à plusieurs reprises a cherché absolument à faire marquer Benzema. Ça prouve que dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui ont évolué quand même.
Merci beaucoup, mon Fredo.
Merci,
bon week-end, Fred. Merci.
Le Barça, grand match.
Ce sera demain. Merci. Demain, il y a d'autres grands matchs également en Angleterre. On accueille Fred Hermel qui est avec nous également.
Non, Fred, c'est fait encore.
N'importe quoi, le mec. Hein. Philippe Auclair, il est temps que j'aille me coucher. Je vous donne le résultat de la 16e journée de Première Ligue. T'es là, Philippe?
Oh oui, je suis là.
Excuse-moi, Philippe.
Salut, Philippe.
Je donne les résultats vite fait. West Ham a battu Chelsea 1-0. Victoire de Swansea face à West Brom 1-0. Tottenham s'est relancé 5-1 face à Stoke. Palace et Bournemouth ont fait match nul 2-2. Victoire d'Huddersfield face à Brighton 2-0. Burnley a battu Watford 1-0. Leicester de Peul est allé gagner 3-2 à Newcastle. Et demain, il y a deux derbies. Liverpool Everton à 15h15. Et Manchester United face à Manchester City. Ce sera à 17h30 sur SFR Sport. Qu'est-ce que tu retiens des résultats d'aujourd'hui, Philippe? Est-ce que c'est la défaite de Chelsea à West Ham qui reste relégable ou Tottenham qui se relance face à Stoke?
La défaite de Chelsea, le fait que Stoke se soit encore pris une valise n'est absolument pas une surprise, dans la mesure que c'est une équipe, j'ai fait le calcul, si jamais ils continuent d'encaisser des buts au rythme où ils le font depuis le début de la saison, ils vont terminer avec 83 buts dans le bilan négatif. Donc c'est pas vraiment une surprise, même si on a vu encore une fois un super Kane, un super Son. On va bientôt appeler ça Tottenham Supersonic et une équipe de Tottenham donc qui s'est fait plaisir. Mais bon, la grosse nouvelle du jour, c'est bien évidemment le fait que cette équipe de Chelsea contre le voisin londonien, décidément ça leur réussit pas les derbies. Hein. Pensez si c'était passé à Crystal Palace, le match nul contre Arsenal, la défaite contre West Ham qui était quand même relégable, avec David Moyes qui avait toujours pas gagné un match avec les Hammers, et puis la performance franchement n'a pas été bonne. Aucun tir cadré, Nicolas, en seconde période pour Chelsea, alors qu'ils sont menés d'entrée de jeu, alors qu'ils ont que les gros calibres sont là, Hazard est là, Morata est là, Fabregas, Kanté, etc. Mais je sais pas, c'est une équipe qui... Elle est comme ça depuis le début de la saison, cette équipe de Chelsea. Elle te convainc à certains matchs, tu penses au match contre l'Atlético, par exemple, certains matchs en Première Ligue également. D'autres matchs, par contre, elle te paraît... Je sais pas, elle est pas dans le coup. Et Kanté, d'ailleurs, il a plus ou moins admis que...
Oh, il a dit clairement que le titre, c'était fini.
Oui, non, mais bon, est-ce que c'est une chose à dire après 16 matchs? Je pense pas. C'est pas très bien passé, on va le dire, au niveau de la communication. Je pense qu'objectivement, il a totalement raison. Vu l'avance de Manchester City, c'était l'occasion, même au cas où City perde demain contre Manchester United, c'était l'occasion de refaire une partie du retard. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. 11 points, tu te rends compte? Ça pourrait faire 14, ou 12 ou 14. Ça va également laisser Manchester United, si ça se passe pas trop mal pour les Red Devils demain, prendre un peu plus d'avance. Non, c'est très mal parti pour Chelsea, bien évidemment.
Tiens, t'évoquais le derby d'aujourd'hui, donc, entre West Ham et Chelsea. Évoquons les derbies de demain. Liverpool, Everton et surtout Manchester United face à Man City. Alors, il y a pas mal d'incertitudes à cause du temps. Il neige beaucoup dans le nord de l'Angleterre.
Moi, je suis arrivé, je vous parle de Manchester. On attend un véritable blizzard demain pile sur le nord-ouest, c'est-à-dire la Mersey et la région de Manchester. On a des plans d'urgence qui ont été déclenchés. Le problème ne sera absolument pas l'état des pelouses qui seront jouables. Le problème, ça va être l'accès au stade et on croise les doigts que les chutes de neige ne soient pas trop prononcées. Je te dirais qu'en ce moment, j'ai quelques inquiétudes. Mais bon, a priori, partons du principe que ces matchs vont avoir lieu. Et bien évidemment, deux gros matchs, mais deux gros matchs complètement différents. D'une part, c'est tu as le réveil d'Everton, est-ce qu'ils peuvent enfin faire un coup à Liverpool? Je te dirais franchement, personne n'y croit trop en ce moment, vu la forme des Reds à domicile. Est-ce qu'on a vu encore en Ligue des Champions où c'est tout simplement éblouissant en attaque? Mais bien évidemment, tous les regards, et je pense une grosse partie des regards en Europe sera sur Old Trafford, pour voir ce qu'il en est de la confrontation entre Mourinho et Guardiola. Ce match qui promet tellement. Me demande pas un pronostic, surtout pas, Nicolas.
T'as un pronostic ou pas, Philippe?
Merci beaucoup. Non, je te dirais, je vais te dire, je vais pas mouiller, je vais te dire un match nul. Je m'attends pas à voir un Manchester United très entreprenant. Comme tu as Paul Pogba qui est bien évidemment suspendu, comme nous le savons. Du coup, ça veut dire que tu auras sans doute un milieu renforcé du côté de Manchester United avec Matic et André Herrera. Avec André Herrera qui, à mon avis, sera plutôt fera un marquage avec culotte sur Kevin De Bruyne. Du côté de Manchester City, on verra l'équipe habituelle, c'est-à-dire on verra.
Pas de blessé, Philippe?
Écoute, pas à ma connaissance. Alors, je l'ai dit, j'ai passé tellement de temps dans le train pour venir à Manchester et c'est peut-être passé des choses pendant que j'étais pas là. mais a priori, non. C'est une bon, mis à part John Stones, bien évidemment, qui est toujours absent. Il n'y a pas de blessés supplémentaires à regretter. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi Marouane Fellaini serait de retour pour ce match. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire. J'ai eu des infos, quant à moi, venant de Belgique, disant que c'était hors de question. Mais à Manchester, on dit qu'il y a une petite chance pour que Marouane Fellaini serait disponible. Mmh. S'il est disponible, je peux te garantir une chose, vous le verrez sur le terrain Old Trafford demain, à moins, bien évidemment, que ce terrain soit couvert de neige et que nous soyons, restions emmitouflés à regarder les pelleuses faire leur travail.
Merci, Philippe.
Et puis, que je ne nous souhaite pas.
Ouais, moi non, bah, je le souhaite à personne. Je souhaite, voilà, parce que nous, on le fera vivre également sur SFR Sport. Bonne soirée, Philippe, et à demain, alors.
Ciao, ciao, Philippe.
Bonne soirée à vous. Merci,
Philippe. Ciao, salut. Philippe. Bonne soirée. Je vous rappelle les résultats de la 17e journée de Ligue 1. PSG Lille 3-1. Un partout entre Angers et Montpellier. Victoire de Guingamp 4-0 contre Dijon. Toulouse s'est relancé. Victoire 2-0 face à Caen. Un partout entre Metz et Rennes. Et Monaco, qui était mené 2-0 face à 3 après un doublé de Souk, eh bien, s'est imposé 3-2 dans les 20 dernières minutes de cette rencontre. Grazie mille.
Tu as allumé le feu, mon ami. Oui.
Merci beaucoup, Olivier Darmanin. Voilà, Olivier
Darmanin. Il est déjà endormi.
Merci beaucoup, okay. François Manardo. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont permis de réaliser cette émission absolument exceptionnelle.
Non, tu as allumé le feu avec des résultats qui n'étaient pas. Première mi-temps, il y avait deux buts, je crois.
Ouais, c'est vrai que c'était pas top. Hein.
C'était pas
ça avait mal démarré. Et on se retrouve demain. Bien entendu, demain, le match de ce soir, le match de 21h, c'est Marseille-Saint-Etienne. Match à suivre à partir de 20h sur RMC. Bien sûr, à demain. Bisous.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.